Georges Pigna et moi-même, Gilles Lessina, sommes heureux de vous accueillir sur la plus rebelle des radios. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui a lieu comme tous les ans à Saint-Priest, à l'espace Mosaïque. Donc c'est le samedi 22. Le samedi 22, c'est pas le jour des flics, c'est le jour de l'ouvrière, voilà. Ça change un petit peu. Et le dimanche 23 septembre, et c'est la fête de l'ouvrière, avec nos deux invités qui vont se présenter.
Oui, alors bonjour, Michel Pieux, je suis militant de l'ouvrière, je travaille à Renault Trucks, à Vénissieux, voilà.
Et bonjour, moi c'est Adèle Kopf, je suis militante de l'ouvrière et je suis enseignante. Et on en profite pour remercier Radio Canu de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de la fête de lutte ouvrière qui a lieu ce week-end.
Alors que devient, parce que j'ai entendu un écho sur une radio, j'arrive pas à me souvenir, votre nouvelle dirigeante qui habitait Vaux-en-Velin et qui travaille à Rieux.
Et qui sera là.
Comment ?
Et qui sera là.
Et qui sera là justement le samedi à 19h et qui vient faire une allocution justement pour parler. Ah, elle va très bien. Elle sera là justement pour parler parce que c'est une fête, notre fête, c'est comme d'habitude, hein, c'est une fête où se côtoie la politique, les spectacles, des expositions, plein de choses, même de la science. Mais notamment, oui, notre camarade Nathalie Arthaud, qui était notre porte-parole aux élections présidentielles, sera présente samedi à 19h pour faire une allocution, pour parler un peu de tout ce qui se passe. Alors, bon, on va pas retracer tout, mais toutes les attaques qu'il y a actuellement du gouvernement Macron, des patrons en général, que ce soit ce qui s'est passé avec la grève des cheminots, que ce soit les annonces de suppression de postes dans l'éducation nationale, les attaques sur la sécurité sociale, sur la retraite, il y a de quoi dire. Et nous, on a beaucoup de choses à dire, et donc notre camarade sera là pour défendre un peu les idées qu'on défend tout au long de l'année en militant. Voilà.
Alors Florence Oubna est bien à la mode en ce moment. Hein. On voit dans différents. Vous l'avez pu la capter facilement.
Ah, c'est pas elle qui vient.
Alors c'est pas Florence Oubna qui vient, mais le samedi soir, c'est vrai qu'à la fête de lutte ouvrière, c'est une pièce de théâtre donc qui a joué à Lyon dans, je sais plus, au Théâtre des Clochards Célestes, je crois.
Oui, c'est
et
ça,
qui
oui.
là donc elle vient se produire à la fête de lutte ouvrière et donc c'est une pièce de théâtre qui est inspirée du livre de Florence Oubna, Le Quai de Ouistreham, donc qui racontait un petit peu le quotidien des femmes de ménage qui font des petits boulots avec 2 heures de boulot le matin, 1 heure le soir, toutes les galères, et puis à la fois tous les liens humains et les liens de solidarité qui peuvent se tisser entre ces femmes. Donc c'est cette pièce de théâtre qui aura lieu le samedi soir à la fête de lutte ouvrière.
Par la compagnie La Résolue.
Alors moi j'ai bien connu 68, hein, j'avais 30 ans, vous venez vraiment en parler, parce que c'est un peu léger, hein. Moi je m'attendais, à part on a entendu machin... Comment il s'appelle
Je sais pas, Cohn-Bendit.
Oui, on en parlait puisqu'il a une émission sur. Je sais pas.
On en parlait surtout quand il était pressenti pour être ministre de l'Environnement. Mais...
Oui, non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tant parlé que ça. Nous, on en a parlé beaucoup à notre fête de la Pentecôte, où il y a eu notamment justement des débats qui ont été organisés par des copains qui ont connu cette période-là, dont Arlette Laguiller. Mais ce n'était pas la seule. Et on a aussi sorti un livre qui collecte un peu tous les témoignages des militants de Vaux-en-Velin. Ouvrière à l'époque, avant que ça soit lutte ouvrière, puisque ouvrière a été interdite après 68, comme beaucoup d'organisations d'extrême gauche. Donc, ils collectent un peu tout ça. Et à la fête, on en parlera aussi, hein, à la fête de septembre à Saint-Priest, on en parlera, parce que c'est en effet un sujet très, très important et très intéressant, et toujours d'actualité, puisque finalement, c'est un événement où on voit où les travailleurs qui jusque-là, on pensait endormi, pas capable de réagir, se réveillent et bouleversent complètement la société, et comment malheureusement aussi, puisqu'il y a l'aspect de la grève qui est bradée par les partis de gauche qui essayent de la détourner pour aller faire voter les gens pour changer d'avoir un bon gouvernement de gauche, et qui finalement fait que la grève finalement elle a été très forte dans la puissance des gens qui sont mis en mouvement, et elle s'est finie malheureusement sur un accord de Grenelle qui est quand même pas grand-chose à comparer de la masse qui s'est mise en mouvement. Quoi, voilà.
Et vous ne pourrez pas y échapper, c'est le retour de Gégé à Lyon. Hein.
Non, rien à voir avec la gauche, du coup.
Oui, ça. Il s'est fait chambrer sur les émissions des comiques le matin.
Oui, bah ça.
Alors, allez-y, il y aura des débats. Alors, les débats, c'est ce que vous venez d'un peu de dire, là. Hein.
Bah, il y aura des débats.
Ah, c'est important. Ouais. On espère les recevoir. J'ai une piste, parce que je le connais bien. C'est un ancien élu hein, de Givors, tout ça. Ah. Vous savez, les verriers, c'est le vrai problème, parce qu'il meurt d'un cancer. Et puis, pour avoir des indemnités, si je ne me souviens pas la boîte qu'ils employaient.
Bah, c'était BSN, c'était Danone après. Voilà. Et après, ils se sont débarrassés quelques années avant la fermeture. Ils ont revendu à une autre entreprise, je crois MS Manufacturing.
C'était une boîte qui fabriquait du verre, des verres.
Ça, c'était des verreries
turques.
Mais donc en fait dimanche après-midi effectivement il y aura un débat à la fête de lutte ouvrière autour de ce combat des verriers Givors et leur combat c'est pour faire reconnaître l'origine professionnelle de leur maladie parce qu'en fait tous les anciens verriers donc la verrerie elle a fermé depuis un moment mais là ils tombent tous malades les uns après les autres et la boîte a fermé sans leur donner des certificats d'exposition, ils veulent pas reconnaître qu'ils ont été exposés à l'amiante, ils ont été exposés à plein de produits chimiques divers et variés tous plus ou moins toxiques et ils n'arrivent pas à faire reconnaître que c'est à cause de ce travail qu'ils sont malades aujourd'hui. Donc il y a un des militants de ce combat des verriers Givors qui viendra nous en parler dimanche après-midi. Je sais qu'ils ont eu des audiences cette semaine au tribunal là.
Oui, parce qu'il y a un article en progrès.
Parce qu'ils essayent de faire reconnaître le site amiante quoi, mais pour le moment c'est pas encore gagné quoi.
Alors faut dire son nom, Olivier Minou.
Alors, Olivier Minou, par contre, c'est un de nos camarades, c'est pas un militant des verriers.
Ah, c'est pas lui.
Non, je pense que le débat avec les verriers sera en début d'après-midi dimanche, peut-être à 14h. Et à 16h, Olivier Minou, c'est un militant de lutte ouvrière qui est ouvrier dans la chimie, là, dans le couloir de la chimie au sud de Lyon, à Solvay, et qui va prendre la parole, là aussi, pour défendre un petit peu nos idées, dénoncer l'évolution actuelle de la société capitaliste, qui est de plus en plus pourrie, qui pousse de plus en plus de travailleurs vers la pauvreté. Et alors que les dividendes aux actionnaires n'ont jamais été aussi élevés, ça bat des records, les milliardaires n'ont jamais été aussi riches. Donc nous, on a envie de poursuivre le combat contre cette société. Voilà.
Ouais, dans les autres débats, on va faire un débat sur la grève à la SNCF, hein, parce que c'est quand même un événement qui a marqué l'actualité pendant plusieurs mois, qui est loin d'être fini dans le sens où peut-être que le gouvernement et les patrons de la SNCF pensaient que les gens allaient baisser la tête. Et ce qu'on voit, c'est que, bah, par exemple, cette semaine, il y a eu une contrôleuse de la SNCF qui avait été convoquée pour en vue de sanctions, voire de licenciement, et il y a quand même la direction a dû reculer quand même sur le licenciement, puisqu'ils ont quand même été 300 à se réunir assez rapidement pour défendre cette collègue. C'est la preuve, enfin voilà, c'est un débat qu'il faut avoir sur les leçons qu'on peut tirer de cette grève qui a été importante, même si elle n'a pas abouti au retrait du projet du gouvernement.
Mais en tout cas, le combat n'est pas fini. Et puis, c'est vrai que le combat qu'ils ont mené, les cheminots, c'était pour refuser d'être plus facilement licenciables, d'être plus précaires, etc. En fait, ils concernent tous les travailleurs, qu'ils soient du privé, qui sont de plus en plus confrontés à ça, à cette menace de licenciement, à la précarité, ou que ce soit le public, hein, parce que une fois qu'ils auront réussi à précariser les cheminots, on imagine bien qu'ils vont s'attaquer à tous les autres travailleurs qui ont encore une certaine sécurité de l'emploi. Et bah, nous, on pense que c'est bien le minimum quand même dans la société d'avoir la garantie d'un salaire, d'un emploi, de pouvoir vivre dignement, et que c'est la moindre des choses, et que les salaires des travailleurs devraient passer bien avant les profits des capitalistes, les dividendes des actionnaires et tout l'argent que les différents gouvernements donnent au patronat, quoi. Donc notre fête, c'est un peu l'occasion aussi de discuter de tout ça, de débattre. Dans les débats, on va aussi faire un débat le dimanche sur les guerres commerciales, le protectionnisme, un petit peu toute cette situation où les États, où certains dirigeants veulent fermer les frontières, veulent mettre des taxes aux frontières pour protéger leurs capitalistes dans la concurrence internationale. Et ben, nous, on pense que toute cette évolution, c'est pas bon signe que chacun se retranche derrière ses frontières nationales. Y compris à gauche, il y a certains qui présentent ça comme une perspective pour les travailleurs. Ben, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Nous, on pense que tout ce que ça protège, ces taxes aux frontières, c'est les capitalistes. Et que quand ils augmentent les droits de douane aux frontières, au final, les patrons, ils se récupèrent en augmentant les prix. Et puis que derrière, c'est toujours aux travailleurs qu'on fait payer la note.
Une petite parenthèse, poivre et sel, c'est qui
Alors moi je ne connais pas personnellement, mais c'est un groupe qui fait de la chanson française. Hein. C'est vrai que c'est aussi une fête On parle beaucoup de politique, mais on fait aussi beaucoup de choses comme des concerts. Donc en fait, oui, Pauvre SL, c'est de la chanson française, mais il y a aussi Trio Vivo qui fait de la musique folklorique, les Corned Beef du rock, les Bonhommes aussi. Voilà, il y a un peu, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a du blues, il y a des musiques plus.
Ils sont de Lyon, ils sont d'à côté, ils sont.
Alors là.
En général, c'est des groupes de la région.
Oui,
mais
là, je peux pas vous dire
tous les détails de chaque groupe.
Voilà. Désolé.
Finalement, c'est un peu comme la fête de l'humanité.
Ouais.
Vous avez des débats et des concerts.
Oui.
Et un peu de théâtre aussi, ils en font aussi.
Voilà, du théâtre et puis des stands scientifiques aussi, parce qu'en fait, on pense que la science, c'est pas réservé à une élite. Qu'il y a des choses qui concernent tout le monde. Donc on a un certain nombre de choses où là par exemple on va parler de la vaccination, parce que c'est pas qu'un problème de science, c'est aussi un problème de société. Quand on voit actuellement le retour de certaines maladies, qui reviennent alors qu'elles devraient pas, comme la rougeole, c'est des débats qui sont importants et qui doivent pas être cantonnés dans un petit milieu. Les gens qui viennent à la fête, les travailleurs qui viennent à la fête, ils apprécient ça aussi, de pouvoir trouver des informations, des connaissances. On a aussi beaucoup une librairie avec des présentations sur des romans. Les thèmes, c'est l'Amérique latine, le sport et les luttes des années 60-70, avec toujours l'axe de montrer un peu quand même la vie des gens, des travailleurs, les luttes qu'ils peuvent mener, de toujours d'essayer d'axer sur des choses qui peuvent intéresser les gens qui viennent à la fête de lutte ouvrière. Voilà.
Il y a aussi des jeux pour les enfants, je viens de dire, parce que il y a aussi, les gens peuvent venir en famille, il y a de la pêche à la ligne pour les tout-petits, il y a des animations aussi, pour les enfants aussi, ça soit une vraie fête. Quoi.
Je note un atelier de sérigraphie.
Oui, tout à fait, c'est marqué.
Oui, alors, disons le maire d'ouverture de Saint-Priest qui...
Non, les LR. Lutte ouvrière, LR, c'est les Républicains. LR, c'est les Républicains. C'est lui, la municipalité a basculé du PS aux les Républicains.
Et il vous accueille facilement ou s'est pas rendu compte qui est-ce qui l'accueillait
Il sait très bien qu'on est lutte ouvrière, on ne le fait pas. On était déjà présent sur Saint-Priest avant son élection. Jusque-là, il ne nous a pas interdit de faire la fête, mais il n'y a pas de raison.
Oui, voilà, ça continue, il n'y a pas de souci. On paye la location de la salle.
L'espace est bien, là. L'espace de c'est bien.
Mais il me semble qu'avant, vous étiez à Saint-Fond.
Tout à fait.
Oui, à l'époque de Cyrus Clair et de Mongenot.
Ce qui est pas mal, pardon.
À l'époque de Cyrus Clair et de Mongenot, avant 2001, c'était Saint-Priest.
Oui, je sais qu'à un moment donné, la mairie de Saint-Fond a arrêté de nous louer la salle où on allait. Et par contre, à Saint-Priest, cette salle est très bien. Et en plus, il y a la possibilité d'avoir un petit espace en extérieur. Donc en plus, ils annoncent du beau temps ce week-end. Donc il y a possibilité, il y a des stands qui sont à l'extérieur. Le stand des crêpes, il y a des tables et des chaises où on peut aussi se poser dehors. Donc quand il fait beau, c'est aussi agréable. Il y a des choses qui se passent dans la salle. Des fois, des débats, des choses dans la salle ou des concerts. Il y a aussi des fois des petits groupes qui se mettent à l'extérieur. Donc on peut jouer aussi sur l'intérieur et l'extérieur. Donc ça fait vraiment une ambiance sympathique.
D'accord. Donc ce ne sera pas une météo capitaliste ce week-end.
Vous pouvez nous donner des noms de témoins qui ont milité en mai 68.
Voilà. Oui, parce que vous parlez il y a en effet un documentaire.
Ouais. Les plus jeunes, ils ont peut-être 70 ans. Kéran, c'était pas emballé, mais enfin, il a quand même, sur 68, il avait un peu milité. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus milité, qui ont vraiment basculé, qui ont emporté notre valise. Mais vous avez des noms à nous donner?
Les témoignages des militants, le petit documentaire qu'on projette, c'est des militants de lutte ouvrière. Donc c'est des camarades qui étaient ouvriers, ouvrières, employés de banque, etc. Donc c'est pas des gens, si vous voulez, dont les noms sont très connus au niveau national.
Donc c'est des Lyonnais?
C'est des militants, non, c'est des interviews de militants de tout le pays. Voilà, qu'on va diffuser. Par contre, localement, le débat après, je crois, sera animé par Monique Dauphin et puis par André Moulin, donc qui sont des militants de la région, de Lyon ou de Saint-Étienne, qui ont connu mai 68. Et c'est vrai que, contrairement à certains autres, vous parliez de Cohn-Bendit tout à l'heure, qui, pour le coup, sont devenus vraiment des défenseurs du système capitaliste, qui sont des soutiens à Macron, nous, on pense que dans les idées de mai 68, ça a été le retour des idées révolutionnaires, quand même, mai 68, des drapeaux rouges dans les manifestations. Ben, nous, on continue ce combat-là. Et il y a un certain nombre de militants à lutte ouvrière qui ont découvert peut-être les idées politiques dans cette période-là et qui sont toujours là, toujours convaincus que le système capitaliste, c'est pas l'avenir de l'humanité, qu'il faut se battre pour le renverser et pour une société communiste. Donc ceux qui vont témoigner dans ce documentaire et puis ceux qui vont animer le débat après le documentaire sont des militants qui continuent à porter ces idées communistes révolutionnaires et à penser qu'il faut qu'elles restent vivantes pour que les travailleurs puissent s'en emparer et changer cette société.
Et c'était justement le but de ces témoignages, c'était pas de parler de mai 68, des personnalités entre guillemets qu'on fait peut-être la une, voilà, mais de voir comment les travailleurs, qui la plupart étaient jeunes, très jeunes à l'époque, ont découvert la politique, se sont politisés, ont découvert la lutte, la solidarité, ont découvert le fait de s'organiser, parce que c'est ça aussi qui est présent dans ce témoignage, c'est comment ils se sont organisés, des fois avec les syndicats, des fois contre les syndicats, quand les directions syndicales essayaient de leur faire reprendre le travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est nous, notre but, c'était de montrer comment ça pouvait se passer à la base, et pas tellement dans les parcours de Cohn-Bendit et d'autres qui sont moins intéressants à ce niveau-là.
Enfin, comme à Lyon, Rodier Seta et Berryer, oui. Ils ont obtenu les 30% d'augmentation. Hein.
Ouais.
C'était des combats quotidiens. Moi, ça m'a un peu déçu quand même sur Lyon. On pouvait espérer mieux. Hein. Bon, c'est comme ça. Il y a certainement eu des régions où c'était plus...
Mais c'est justement le problème de 68 qui est un peu évoqué dans ce reportage, c'est que justement, c'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est que de grève générale qui a vraiment surgi sur la scène de la volonté de la base, hein, parce que ça n'a pas été un appel, voilà. Le problème, c'est que les directions syndicales et les partis politiques qui se disaient de gauche ont quand même joué un rôle de vouloir, après Grenelle, faire que, au lieu de se battre tous ensemble, dire faut se battre dans chaque boîte. Donc les boîtes, il y a des boîtes où en effet ils ont continué, ils ont pu obtenir plus. Et puis il y a des boîtes, voilà, parce que on n'a pas le même impact, et ça c'est vrai en 68, c'est vrai de nos jours, on n'a pas le même impact si on a un combat dans sa boîte, ou si on a un combat général de l'ensemble du monde du travail, des salariés, c'est pas du tout le même impact. Et ce qui a fait peur au début au gouvernement, c'est le fait, c'est comme en 36, d'un mouvement qui était d'une grève générale. C'est pas que 20 entreprises soient en grève en même temps, ça peut lui poser problème, mais si ces 20 entreprises, en fait c'est pas que 20 entreprises, c'est toutes les entreprises, et que les gens ils ont l'impression de faire partie d'un tout, et ben c'est bien plus dangereux pour les patrons et pour le pouvoir. Donc c'est vraiment le sujet de ce documentaire.
D'accord, alors on résume, De Gaulle en 68, il va voir Massu, il revient, il fait un défilé, il y a 500 000 personnes sur les Champs-Élysées, qui n'étaient pas à gauche. Alors on s'interroge quand même, on se dit... bon. Alors le repas en crise, parlez-nous-en, parce que là, de plus en plus, on va arriver à des régimes fascistes, quoi. Hein. L'Italie, la Pologne, la Suède, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est dramatique, hein.
Bah, bien sûr, c'est très inquiétant, et c'est vrai que... Alors, ces partis, ils se présentent comme des partis anti-système, parce qu'en fait, ils critiquent... Oui, mais en fait, ils critiquent quoi? Ils critiquent les partis de gauche et de droite de l'alternance habituelle qui se sont discrédités. Hein. En Italie, c'est les partis de gauche et de droite qui ont fait passer toutes les mesures anti-ouvrières, les cures d'austérité, etc., bah, comme en France, comme partout. Donc, ces partis d'extrême droite, ils se présentent en comme une alternative par rapport à ces partis-là. Et ils peuvent prospérer sur le désespoir, sur la dépolitisation, sur plein de choses. Maintenant, ce qu'on voit maintenant que certains sont au pouvoir, c'est qu'ils montrent aussi leur vrai visage, qui est un visage anti-ouvrier. Non seulement ils sont anti-migrants, et de toute façon, déjà d'être anti-migrant, c'est déjà de diviser les classes populaires, de diviser le monde du travail. Donc c'est déjà affaiblir la classe ouvrière. Mais là, ce qu'on voit, c'est que dans les gouvernements auxquels ils sont associés, ils mènent une politique contre les travailleurs. En Autriche, quand même, cette extrême droite qui avait fait campagne contre les migrants, Une fois au gouvernement, elle a fait passer une loi pour faire la journée de travail de 12 heures et la semaine de travail de 60 heures. Donc là, voilà, on voit clairement, c'est ce que réclame le patronat, c'est ce qu'ils veulent, avoir des travailleurs qui bossent des journées de travail alourdies, etc. Et ça montre qu'ils sont dans le camp des patrons, des bourgeois, du capitalisme. Et en fait, quand ils se disent anti-système, ils critiquent jamais la grande bourgeoisie, les capitalistes, les banquiers et le système capitaliste. En fait, quelque part, ils proposent une nouvelle possibilité politique à la bourgeoisie. Voilà. Les autres partis ont déçu. Ben, regardez, nous, on est là. On surfe sur le mécontentement des plus pauvres, de tout un milieu. Et au pouvoir, on sert encore la soupe à la bourgeoisie et aux capitalistes. Donc, oui, c'est inquiétant, cette évolution. Ça montre aussi qu'on est dans une crise, que la société, elle s'enfonce dans cette crise. Et aujourd'hui, ben, les capitalistes n'ont pas d'issue à proposer à cette crise. Personne n'a d'issue à proposer à cette crise.
Alors, ça sera la guerre.
Bah, en tout cas, c'est pas la guerre, je sais pas. Enfin, la guerre, déjà, dans le monde, c'est une réalité pour quand même une bonne partie de l'humanité, déjà, de nos jours. Hein. C'est pas parce que chez nous, entre guillemets, il n'y a pas la guerre que c'est pas le cas déjà dans pas mal de coins. Mais c'est sûr que en fait, c'est aussi la crise du capitalisme, elle est pas finie. Là, en fait, entre guillemets, l'anniversaire du crack de 2008, mais en fait, les problèmes sont les mêmes. Ça continue dans la même veine, c'est-à-dire voilà quoi, tout l'argent qui est capté, il est accaparé par une minorité, mais encore plus qu'avant. Et ça pousse dans la misère. Alors de façon, on le voit en France, on le voit encore plus violemment si on regarde l'exemple de la Grèce, où là ils ont même pas pris le semblant de dire qu'on fait des mesures. Là ils sont allés franchement, ils ont piqué tout ce qu'ils pouvaient piquer aux classes populaires. Voilà, donc c'est sûr que c'est quelque part c'est déjà la guerre, c'est la guerre. Pour l'humanité, dans pas mal de pays, c'est l'histoire des guerres commerciales. Bah c'est un début de guerre aussi, dans un sens, puisque ça se tend entre les pays, entre les puissances capitalistes. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas réjouissant comme ça, et on le dit clairement. Mais justement, le problème, c'est que ce qu'on constate, c'est que les partis d'extrême droite, que ce soit en Allemagne et ailleurs, il y a toujours eu des partis d'extrême droite. Ce qui est dramatique, c'est qu'ils arrivent à attirer à eux des gens qui ne sont pas forcément des admirateurs de Hitler ou de Mussolini. Ils arrivent à capter une fraction de la population la plus pauvre, parce que justement, comme disait ma camarade, c'est qu'en fait la droite et la gauche se sont succédées. Si on prend l'exemple de l'Allemagne quand même, Schröder, qui était le dirigeant socialiste du Parti social-démocrate, qui a une réelle implantation chez les ouvriers, qui était vraiment considéré comme le parti ouvrier en Allemagne, c'est lui qui a fait passer toutes les mesures antisociales dont les gens payent aujourd'hui le prix. Où c'est eux qui ont détruit tout ce qui protégeait les travailleurs. Et c'est pas non plus étonnant que les partis d'extrême droite aient plus d'importance même dans la partie Est, de l'ex-Allemagne de l'Est, parce qu'en fait c'est là aussi où les capitalistes de l'Ouest sont venus, ont pillé tout ce qui était à piller, ont fermé toutes les usines en masse et ont laissé les gens dans la misère la plus noire. Et ceux-là, ceux qui sont responsables, bah, c'est la gauche, la droite, bon, on va dire, voilà, mais la gauche, et beaucoup la gauche. Et quand les gens qui sont révoltés par ce système-là, ils veulent plus entendre parler de la gauche, ils veulent plus entendre parler de la droite, et malheureusement les seuls qui militent enfin pas les seuls, mais disons ceux qui ont un peu plus le vent en poupe, et ben c'est l'extrême droite. Et c'est là aussi le combat contre l'extrême droite, c'est aussi ne pas lâcher le terrain politique, c'est-à-dire que les organisations d'extrême gauche, c'est ce que nous on fait, nous on discute avec des travailleurs, parce que l'histoire des migrants, ça peut être, c'est pas que des gens racistes de base qui peuvent reprendre des préjugés contre les migrants. C'est qu'on est dans un monde où on nous met en concurrence tout le temps. Donc on est en concurrence, voilà. Et il y a des gens qui sont pas forcément racistes, mais qui peuvent penser que les migrants, ça peut être une attaque contre leur niveau de vie, tout ça. Le rôle des militants, communistes révolutionnaires, c'est d'expliquer que le problème, c'est le capitalisme. C'est pas le, voilà. Et ça, et malheureusement, même dans les partis qui se disent de gauche, actuellement en France, il y a des gens qui tiennent des discours un peu ambigus, voire pas du tout ambigus, en disant que quand même les migrants, on ne peut pas les accueillir tous, que c'est un vrai problème. Et ça, c'est un danger, parce que ça amène l'extrême droite. Ça amène l'extrême droite. Ils amènent de l'eau au moulin de l'extrême droite.
Effectivement. En Allemagne, ils ont une alternative à gauche, c'est Die Linke.
Bah justement, si on parle de Die Linke, il y a bien une dirigeante là qui était pourtant, qu'on disait bien à la gauche de la gauche, qui se met à tenir des discours en disant oui, faut pas être naïf ou faut pas être eux, les migrants c'est un problème, il faut en parler. Et voilà, c'est ce genre de personnes. On a vu aussi qui en tout cas vont dans le sens des idées dominantes. Le vent dominant, c'est l'extrême droite, et eux, ils apportent leur en donnant une caution de gauche à des idées racistes, xénophobes, ils apportent de l'eau au moulin de l'extrême droite.
Et puis j'en profite parce que Die Linke en Allemagne, ses perspectives politiques ressemblent un petit peu à celles que peuvent défendre en France la France insoumise, le Parti communiste, ce qu'on appelle la gauche. Et justement, nous, on est complètement opposés à ces perspectives-là parce que finalement, ce sont des partis qui nous expliquent que pour changer le sort des travailleurs, s'ils veulent changer leur sort, il faut qu'ils votent à gauche, qu'ils envoient un bon gouvernement de gauche et que là, on pourra faire une politique plus sociale, plus, etc., dans le cadre du capitalisme. Donc, c'est des partis qui continuent à faire croire aux travailleurs que dans le cadre de la société capitaliste, en laissant le contrôle du fric, des usines, des banques, en laissant tout ça entre les mains des capitalistes et des banquiers, on peut quand même améliorer notre sort. Nous, on pense que c'est pas vrai, que c'est complètement utopique, parce que ça ne s'est jamais vu. À chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir, elle s'est empressée de se soumettre aux exigences du grand patronat. Le dernier exemple en date, si vous vous rappelez, c'était Hollande. Mon ennemi, c'est la finance. Vous rappelez tous de ce discours-là. Il y a des gens qui y ont un peu cru, qui se sont dit « Ah ben tiens, lui, il va peut-être, etc. »
Qui voulait surtout virer Sarkozy.
Oui, bon, c'est vrai. Mais au final, on a eu Hollande, et puis Hollande, il a fait la politique que les patrons, les banquiers exigeaient. Il a attaqué les travailleurs, il a attaqué les droits des travailleurs. Donc, non, nous, on ne croit pas du tout à ça. Nous, on croit que ce que les travailleurs obtiendront dans le futur, c'est ce qu'ils arracheront par leur combat. Et ce qui compte, c'est le rapport de force. Aujourd'hui, le patronat, il est fort parce que il y a des millions de chômeurs, donc ils peuvent se permettre de faire du chantage aux gens qu'ils embauchent en leur disant « si t'es pas content, t'es dehors ». Mais ils sont surtout forts aujourd'hui parce que du côté de la classe ouvrière, on n'est pas assez organisé, on n'est pas assez... on se fait pas craindre. C'est sûr qu'en mai 68, la classe ouvrière, elle a montré ses muscles, entre guillemets. Elle s'est fait craindre. Elle a montré à toute la société, regardez, quand nous, on s'arrête de bosser, il n'y a plus rien qui tourne. Et maintenant, vous allez nous écouter. Et ce combat de mai 68, ça a eu des répercussions aussi dans les années suivantes, dans l'organisation des travailleurs, dans le rapport de force. Aujourd'hui, c'est cette perspective-là que nous, on défend, parce qu'il y a aucun gouvernement qui va nous sauver d'en haut. Soit nous, les travailleurs, on est capables de taper du poing sur la table tout ensemble et de défendre nos intérêts, notre peau, parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'on en est. Quand on voit le nombre de travailleurs qui sont licenciés, qui sont réduits à des petits boulots, qui sont réduits, etc., il va falloir qu'on défende notre peau et ça ne se fera pas par les élections. Voilà. Parce que sur le fond, les partis de gauche qui se présentent les élections comme une perspective, ils respectent en réalité le pouvoir du patronat, la propriété privée des entreprises, et en fait, ils acceptent le capitalisme. Ils veulent nous faire croire qu'on peut faire un meilleur capitalisme si on vote pour eux. Nous, on n'y croit pas.
Vous allez, Lutte Ouvrière, vous allez présenter une liste aux européennes?
Oui. Alors c'est pas le sujet de tout de suite parce que c'est un peu loin, mais c'est le sujet dans le sens. Oui, c'est dans 9 mois, voilà.
Mais sans doute Nathalie Arthaud sera tête de liste. Je me souviens qu'en 99, la dernière fois que l'élection européenne était au niveau national, Lutte Ouvrière avait eu des élus, mais il s'était allié avec la Ligue communiste révolutionnaire. Donc il y avait eu Arlette Laguier, Alain Krivine qui avait été élu. Et donc 5 élus, dont Roselyne Vaqueta, qui était
oui,
de Grenoble.
Oui.
Oui, Krivine, une fois, il y a eu un interview.
De temps en temps, tout à l'heure, vous avez parlé de André Moulin, donc, ouais. Qui est non pas stéphanois, mais de Saint-Chamond.
Tout à fait.
C'est une exactitude de ma part.
Puisqu'il a été adjoint au maire de Saint-Chamond à l'époque où Philippe Kizirian était maire, et c'était. Donc un adjoint d'ouverture, puisque à l'époque, en 2008, Lutte Ouvrière avait présenté des candidats sur des listes communistes ou socialistes. C'est comme ça que Nathalie Arthaud était devenue conseillère municipale de Vouvant-en-Velin.
Aux élections locales, on avait fait ça. Ouais.
Oui.
Et pour les européennes, en tout cas, oui, on sera présent. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et que, justement, on n'attend pas les élections pour faire de la politique. Mais les élections, même si le temps de parole est très réduit dans les médias, ça permet de quand même passer un petit peu, mais ça permet aussi de parler à ce moment-là avec des gens qui, mine de rien, quand il y a des élections, malgré le dégoût de la politique, des élections, c'est un moment privilégié pour défendre des idées auprès de l'ensemble de la population.
Puis nous, on a envie de défendre des choses aussi dans ces élections, parce que ce qui semble se dessiner, c'est un espèce de débat entre ceux qui vont être pour l'Europe, comme Macron, qui va se présenter en grand défenseur de l'Europe, et puis les anti-Europe. Alors, à l'échelle européenne, vous avez différents, des Salvini, des Orban en Hongrie, puis Le Pen en France, qui vont mettre sur le terrain de « tout est la faute de l'Europe ». Et malheureusement, il y a aussi les partis de gauche qui vont se présenter sur ce terrain-là contre l'Europe. Et nous, ce qu'on a envie de dire dans ces élections, c'est que le problème des travailleurs aujourd'hui, c'est pas rester dans l'Europe ou sortir de l'Europe, parce que dans les deux cas, la politique qui sera menée sera anti-ouvrière. D'ailleurs, regardez en Angleterre avec le Brexit, c'est de toute façon aux travailleurs, s'ils sortent de l'Europe en Angleterre, la note, ils vont la présenter à la classe ouvrière, c'est évident. Et nous, on a envie de dire qu'on va nous enfermer dans un faux débat pour ou contre l'Europe, alors que nous, on a envie de discuter que le fond du problème, c'est le capitalisme. C'est cette société avec cette loi du profit, cette loi du fric, cette concurrence, ces capitalistes qui pensent qu'à leur profit et qui peuvent ruiner des régions entières, qui sont complètement irresponsables et dont le système économique peut se casser la figure du jour au lendemain, comme il l'a fait en 2008. Voilà. Donc nous, on a envie de discuter de ça et de faire prendre conscience aux travailleurs qu'il ne faut pas se tromper de débat, pas se tromper de problème. Le problème, c'est dans la société, qui a le pouvoir, qui dirige la société. Aujourd'hui, c'est des patrons, des capitalistes, des financiers. Tant que c'est eux qui ont les manettes de l'économie, ils vont faire la loi. Et nous, on a envie de contester ce pouvoir-là. Et on va essayer de se présenter aux élections européennes, parce qu'on pense que c'est important que cette voie-là, cette voie de contestation du capitalisme, cette voie qui fait entendre les intérêts politiques des travailleurs, elle soit présente et qu'on ne se laisse pas enfermer dans des faux débats.
Pour avoir des élus, il faudra combien de...
Ça à 5%.
Ah non, mais il a bien les
chiffres. En 99, il suffisait d'avoir 5% et la liste avait des élus. 5%. Ouais. Et c'est comme ça qu'en 99, il y a eu des élus. Lutte ouvrière, mais aussi aux chasseurs. 5 élus. 5% de chasseurs, oui. 5% pour les chasseurs.
Ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque élection européenne, quasiment, ils changent
C'est-à-dire que la dernière fois qu'ils avaient changé, c'était en 2004 pour faire des régions.
Ouais. On était
avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Et ça a tenu en 2004, 2009 et en 2014. Et là, ils rechangent pour 2019. Donc, ils ne changent pas tout le temps.
J'exagère un peu,
Mais c'est vrai qu'en les élections européennes, étant donné qu'il suffit d'un ticket d'électeur à 5%, a permis à pas mal de mouvements de se faire connaître. C'est comme ça que, du coup, les chasseurs ont eu leurs premiers élus, leurs premiers parlementaires grâce aux élections européennes. Et en 84, malheureusement, c'était aux européennes que Le Pen a eu ses premiers députés.
Mais enfin, en même temps, de toute façon, le Parlement européen, il a très très peu de pouvoir. En réalité, les décisions au niveau européen sont prises par les ministres des pays les plus forts. Donc, en gros, l'Allemagne et la France, un petit peu. Il y avait encore un petit peu la Grande-Bretagne, mais enfin là, ils sont en train de s'en aller. Donc, en réalité, le Parlement européen, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Et puis même les pays qui sont rentrés plus tard dans l'Europe et qui sont les pays les moins riches, les moins développés, comme tous les pays de l'Est, mmh. ils sont quand même rentrés dans l'Union européenne en position de subordonnés. Ils sont bien pillés par les entreprises et les banques françaises, allemandes et compagnie. Et voilà, c'est pas vraiment un modèle de démocratie, cette Europe.
Ceci dit, une loi qui est proposée par donc la Commission européenne peut être rejetée par le Parlement européen. Ça arrive. Le Parlement européen n'a pas la force de proposition, mais elle peut rejeter un texte. C'est arrivé.
Oui.
C'est arrivé malheureusement, par exemple, pour la taxe Tobin.
L'événement, donc la fête
de l'outouvrière. Est-ce qu'on a des heures exactement? Parce que là, les horaires, parce que le samedi...
Pour le département, comment que ça fonctionne?
Ah, bah, c'est la fête de lutte ouvrière de la région. Alors,
de la région, voilà.
Oui, alors il y a aussi une autre fête de lutte ouvrière à Grenoble. Bon, mais du coup, on a là des camarades qui viennent aussi un peu de la Loire, de Drôme, d'Ardèche.
Donc c'est
samedi 22 à partir de 17h, donc c'est à l'espace Mosaïque à Saint-Priest. Dimanche...
Il faut bien dire l'adresse,
47-49
rue Aristide Briand. Qui est l'ancienne route d'Erieux.
Voilà. Le dimanche, c'est à partir de 11h30, midi, mais c'est le banquet, donc c'est sur réservation. Donc si des gens sont intéressés, il faut vraiment nous contacter à l'avance parce qu'on a besoin de connaître les quantités. Et puis après, la fête, toutes les animations, les débats reprennent à partir de 14h. Et je redis quand même que donc jusqu'à 19h. Samedi soir à 19h, donc il y a l'intervention de Nathalie Arthaud, qui était notre candidate à l'élection présidentielle. Donc
une question toute simple. Elle vient comment à Lyon, en voiture, en avion, comment qu'elle
En général, elle se déplace en train. Donc là,
l'avion, je pense pas.
L'avion, je pense pas, mais oui, en train à mon avis.
Une anecdote toute simple. Ouais. Donc Georges Marchais venait à un gros meeting en 89, je crois. À Lyon, je ne suis pas cité le nom du personnage qui conduisait la voiture. Fitterman devait être dans la voiture, je crois. Ouais. Et ils étaient en liaison avec le Palais des Sports de Lyon pour savoir si ça allait chauffer ou pas. Alors j'annonçais, Marchais m'a demandé. On a tant de militants qui venaient d'arriver, autant voilà, ils sentaient. Alors évidemment, quand il est arrivé, j'avais peut-être un peu ralenti en route. Quand il est arrivé, c'était archi plein, quoi. Et là, tout le monde s'est levé. Et oui, c'est ça la politique. Et oui, il y en a qui l'ont fait pour d'autres partis. Hein. Mmh. C'est, il faut. Qu'est-ce qu'il l'avait et fait je... Il n'a pas la droite. Et quand la. Eh ben, c'est Machin qui avait été viré, l'ancien Premier ministre. Et là, la salle est bien chauffée. C'est le moment. On dit. Elle va parler combien de temps, Arthaud, là?
Une demi-heure.
On n'a pas la même conception du meeting.
Je voulais juste savoir, parce que là, ils annoncent le samedi un théâtre par la compagnie de la Résolue, mais c'est à quelle heure?
Ça sera vers 21h le théâtre. Donc il y aura Nathalie Arthaud qui va intervenir à 19h. Après, je crois qu'il y a le débat sur les leçons de la grève SNCF. Alors il y a différentes choses en même temps parce qu'il y a aussi des vidéos, mais enfin les gros trucs. Et le théâtre, ça sera de 21h à 22h la pièce. Et après, il y a le bal. Voilà, on termine la soirée en dansant.
Mais là, c'est sur invitation. Mais et Jack Mono Blues, c'est marqué blues et trio Jinko. Jinko. Métissé, on sait à quelle heure il passe.
Ah là, j'ai pas les horaires sur moi, mais
sur notre site internet régional, donc vous allez sur le site Lutte Ouvrière, rubrique en région, ensuite Rhône-Alpes, vous avez le programme détaillé, ainsi que sur notre page Facebook. La page Facebook s'appelle Lutte Ouvrière Lyon et Rhône.
Vous êtes sur Facebook, vous?
On est tous.
Au fait, pour ceux qui veulent réserver pour le banquet du dimanche midi et qui n'ont pas internet, que font-ils?
Alors, ils peuvent nous écrire, là, ça va être un petit peu juste, on a la boîte postale à Vénissieux. Sinon, j'en profite pour dire que le samedi même, le samedi 22, on aura un stand à la foire de Saint-Priest, donc toute la matinée. Donc, éventuellement, si des gens n'ont pas pu nous contacter et souhaitent venir prendre des places ou réserver pour le banquet, ça peut être à ce moment-là. Et puis sinon, le samedi soir, s'ils viennent le samedi soir, ils peuvent aussi éventuellement voir s'il reste encore... des places pour le banquet du dimanche.
On a une carte d'entrée pour 2 jours.
C'est 7€ pour les 2 jours en prévente, hein, donc à l'avance.
10€ sur place.
10€ sur place, voilà.
Voilà. Ouais, c'est rare qu'on refuse du monde quand les gens arrivent.
Ah non, là, les gens, s'ils arrivent, ils peuvent rentrer, il n'y a pas de souci.
Oui.
Venez, n'hésitez pas.
Eh bien, on vous remercie d'être venu. Donc, fête de lutte ouvrière à l'espace Mosaïque à Saint-Priest, ce samedi 22 à partir de 17h et le dimanche 23 à partir de 11h30. Alors, dimanche, ça se terminera à 19h.
Voilà. Eh bien, merci à Radio Canu de nous avoir invités.